temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Bonjour à toutes et tous, Armand Dubois au micro. En 2004, elle amorce un emploi à ce qui s'appelait à l'époque la Fondation de la tolérance, maintenant devenue Ensemble pour le respect de la diversité, à titre d'animatrice d'un atelier de sensibilisation sur la discrimination, les préjugés et les génocides. Au gré du temps, animée par une soif insatiable de justice, on peut dire d'elle que c'est une femme déterminée, soucieuse du bien-être de ses compatriotes et imprégnée d'une grande espérance, celle d'un monde meilleur. Nous recevons avec plaisir la directrice du Réseau des donateurs pour la paix, Mme Andréanne Paquet. Bonjour à vous.
Bonjour.
Réseau pour la paix, Réseau des donateurs pour la paix, qu'est-ce que c'est essentiellement?
En fait, c'est un réseau de fondations philanthropiques et de donateurs qui ont un objectif commun, soit d'appuyer des initiatives de paix appliquées. Donc, paix appliquée, ça a l'air un peu ésotérique, en fait, pourquoi on dit paix appliquée, c'est que le terme de paix est tellement associé à la guerre, à l'antimilitarisme, etc., alors que c'est un terme qui recèle d'autres significations. Nous, la signification de la paix qu'on retient, c'est celle d'un meilleur vivre ensemble, d'une harmonie sociale, d'une société où les gens ont une plus grande intelligence émotionnelle, ont plus d'empathie.
Mettre les conditions essentielles à une vie plus agréable, plus sereine.
Exactement. Donc, dans le fond, de donner des outils à des organisations qui aident la société à mieux vivre ensemble.
Qu'est-ce qui amène un jour une personne telle que vous à se retrouver directrice d'un tel organisme?
En fait, c'est un hasard des rencontres, si on peut dire. Le réseau est l'initiative de Brian Bronfman, qui est un philanthrope montréalais et qui, d'ailleurs, siégeait sur le conseil d'administration d'Ensemble pour le respect de la diversité. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et je pense qu'on s'est appréciés. Et au fil du temps, Brian a pu voir un peu qu'est-ce que moi je faisais à Ensemble. Et quand j'ai annoncé mon départ d'Ensemble, il est venu me voir.
Mais ça veut dire qu'il y avait quand même, on parlait de conditions, des conditions gagnantes pour faire en sorte d'y arriver. Parce que si on regarde un peu votre profil, malgré votre jeune âge, vous avez toujours été, entre guillemets, une personne très engagée.
Oui.
Depuis votre tendre enfance, presque.
Oui. Et puis, plusieurs personnes me demandent pourquoi. J'en ai aucune idée. C'est vraiment quelque chose qui est très, très enraciné à l'intérieur de moi. Ce besoin d'être engagé, de lutter pour les droits. Et donc, ça a guidé l'ensemble de mon parcours.
Est-ce associé à votre lieu d'origine? Parce que vous venez de la Côte-Nord. Parfois, les conditions sont moins faciles, ne serait-ce qu'au plan du climat.
Oh oui.
Vous êtes né à cette île, exactement?
Oui, exactement. Oui, je pense que ça m'a influencée. J'étais dans une école qu'on disait « mixte ». Et moi, maintenant, ça me révolte qu'on ait pu utiliser ce terme pour mon école primaire. Donc, c'était une école où autochtones et blancs se côtoyaient. Donc, souvent, les autochtones venaient à cette école-là parce que il y avait plus de place sur la réserve à l'école. Et donc, j'ai vu un peu le traitement qui était réservé aux autochtones à l'école, comment on leur interdisait de parler leur langue, comment ils étaient rejetés.
Quand vous dites « mix », c'est parce qu'on parle de blancs et d'inous.
Oui, exactement.
Et les inous, donc les autochtones, étaient rejetés, disiez-vous.
Oui. Et même, je le voyais dans le comportement des adultes qui souvent, décrivaient les maisons des autochtones en disant que c'était des gens malpropres, étaient un peu méprisants quand on parlait. Bon, ils ont un centre d'achat, là, et donc qui étaient méprisants à l'envers de ce centre d'achat-là. Donc, je voyais tous ces comportements-là. Mais moi, à l'école, mes copines dans la cour d'école, c'était des Innus. Donc, je ressentais un peu la tension entre le racisme de ma communauté et l'amitié que j'avais pour ces jeunes filles-là.
Un petit air pour vous rappeler votre enfance. Même si c'est une chanson plus récente, elle est de Florent Volant. Avec Mme Andréane Paquet, qui est la directrice du réseau des donateurs pour la paix. Florent Volant, bien sûr, ça vous rappelle probablement cette atmosphère de la Côte-Nord.
Oui.
Donc, vous disiez que vous étiez un peu outré de voir qu'on rejetait vos camarades autochtones.
Oui, mais étrangement, ce n'est qu'après plusieurs années que j'ai appris l'histoire des Innus de Macheteyash, pas de Macheteyash, que dis-je, de Sept-Îles, et ça m'a révoltée. C'était dans mes cours d'anthropologie, beaucoup plus tard à l'université, où j'ai compris comment on avait mis de côté les Autochtones, on les avait carrément déplacés à Malinautenam, comment on leur avait interdit tout plein de choses, d'enterrer leurs morts dans les cimetières. Donc, mais cette histoire-là m'était inconnue à l'époque, mais je la ressentais quand même, comme je vous disais, à travers tous les comportements autour de moi.
Il faut dire que vous veniez aussi d'un milieu, vos parents étaient quand même des gens scolarisés, votre mère était enseignante.
Oui.
Elle enseignait au secondaire?
Exactement, donc à la polyvalente de Sept-Îles. Et mon père également était dans le non-enseignant, il était animateur de pastorale.
Donc, des conditions pour être sensibilisé à l'importance d'autrui,
oui.
À prendre soin de l'autre.
Oui.
Animateur de pastorale, donc on a quand même une vision, je dirais, sans être idyllique, une vision quand même importante de se mieux vivre ensemble.
Oui, c'est un homme, mon père est décédé en 99, donc bientôt 15 ans. Donc, c'était un homme qui était très, très aimant et très, très axé vers les valeurs chrétiennes. C'était pas quelqu'un qui était très religieux ou très pratiquant, mais c'est quelqu'un qui croyait fondamentalement dans les valeurs d'amour du prochain, de pardon, etc. Donc, c'est vraiment des valeurs qui m'ont accompagné tout le long de mon enfance.
Et qui vous accompagne encore.
Tout à fait.
Votre père a été une personne importante.
Oui.
On va se souvenir peut-être un peu de papa, si vous voulez bien, parce que vous nous disiez qu'il était animateur de pastorale, mais il a été aussi directeur de chorale.
Oui, donc il a chanté et il a aussi dirigé une chorale. Et ça, c'était très important quand on était jeunes. Ma sœur et moi, on aimait bien aller voir mon père et ma mère qui chantaient aussi dans le chœur lors de leur spectacle annuel. Et pour moi, le chant, ça reste encore très, très important. C'est vraiment une belle chose que mon père m'a transmise.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, Andréanne, c'était l'ensemble vocal de l'Alliance avec une chanson qui avait pour titre « L'amour a fait les premiers pas » et qui vous rappelait probablement cette enfance que vous avez connue où papa dirigeait une chorale. Vous êtes probablement allé quelquefois entendre de ses concerts.
Oui, et donc c'est ça, c'était toujours un événement. On était très fiers que notre père soit chef de chœur.
Est-ce que la musique a bercé beaucoup votre enfance?
Oui, mais on écoutait beaucoup de musique assez diverse, mais c'était pas aussi riche que maintenant ça peut l'être. On était beaucoup plus dans le chant que dans l'écoute là, de groupe, mais je me rappelle très bien que, mes parents étaient dans l'époque un peu disco, donc on écoutait du ABBA, on écoutait toutes sortes de choses.
Ah oui.
Oui, donc j'ai beaucoup de souvenirs qui sont reliés à la musique.
Est-ce que c'est cela qui vous amène à nous proposer la prochaine chanson?
Oh oui, on avait des... ma sœur et moi, on aimait bien écouter Michael Jackson, donc ça, c'était le...
Mais là, ça ne sera pas Michael Jackson. On va l'entendre probablement ultérieurement. C'est Tori Amos.
Oh oui. Ça, c'est mes années plutôt d'adolescence, fin de l'adolescence, où oui, j'ai écouté frénétiquement Tori Amos pendant de longues, longues heures.
Pretty Good Year, Tori Amos.
Tears on the sleeve of a man. Don't wanna be a boy today. The eternal footman bought himself a bike to race. And Greggy writes letters and burns his CDs. They say you are something in those formative years. Well, hold on to nothing as fast as you can. Well, still. Pretty good, yeah. Huh, pretty good. Maybe a bright sandy beach is gonna bring you back, back, back. Maybe not so now you're off. You're gonna see America. Well, let me tell you something about America. Pretty good, yeah. Ah, pretty good. Some things are melting now. Some things are melting now. Well, hey, 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 hey. What's it gonna take to my baby's story? What's it gonna take? With his birthday pen, sometimes he's aware that they're drawing him in. Lucy was pretty, your best friend agreed. Well, still pretty good, yeah.
Avec nous aujourd'hui, Andréanne Paquet, directrice du réseau des donateurs pour la paix. Alors, on parle d'engagement. On poursuit cette histoire. Donc, après cette île, vous déménagez très tôt à Québec. Vous n'avez que 9 ou 10 ans?
Oui, 9 ans.
9 ans. Là, j'imagine qu'on entre dans un autre univers, la grande ville.
Oui.
Dépaysement, adaptation nouvelle.
Ah oui, c'était...
Difficile?
C'était difficile, mais formateur, je dirais. Bon, premièrement, je cherchais les Autochtones. Où sont-ils passés? C'est vraiment été un choc pour moi.
À ce point-là?
Oui. Parce que pour moi, ça allait de soi que partout, il y avait des Autochtones. Mais là, tout d'un coup, ils étaient absents. Autre grand choc, bien sûr, c'est la ville, les escaliers roulants, le pont de Québec. Pour nous, pour ma sœur et moi, c'était vraiment un grand choc. On était vraiment des jeunes filles de la campagne qui arrivaient, qui débarquaient en ville. Mais en même temps, ça m'a appris qu'on peut toujours se retrouver à quelque part puis retomber sur ses pattes. Et ça m'a appris à être mobile dans la vie, ne pas m'ancrer dans aucun lieu, mais de me sentir chez moi un peu partout.
Et à Québec, vous cherchez les Autochtones, mais vous ne les trouvez pas. Vous allez trouver une voie, par exemple. Arrivé au niveau secondaire, là, vous allez vraiment commencer à vous impliquer de façon active.
Oui. C'est mon père, justement, qui m'avait suggéré De regarder un peu dans le service d'animation pastorale de mon école, s'il n'y aurait pas des comités dans lesquels je me sentirais à l'aise. Donc, j'avais suivi son conseil et je m'étais inscrite dans le groupe d'Amnesty International. Donc, à cette époque-là, dans les années 90, Amnesty International avait des dizaines et des dizaines de groupes un peu partout. Ils avaient fait un grand concert là, au début des années 90 et ça avait suscité, disons, l'engagement de plusieurs jeunes. Et donc, je me suis impliquée et je me suis découvert une passion pour les droits humains. En fait, j'ai découvert combien ça me convenait, ça me rejoignait. Et donc, j'étais dans le groupe scolaire. Puis ensuite, je suis devenue représentante des groupes scolaires au niveau national. Donc, je me déplaçais pour aller à Montréal à des réunions. Et c'était une première expérience là, d'engagement concret, de responsabilisation aussi.
Que recherchiez-vous à travers cet engagement? Parce que vous aviez une sœur plus jeune que vous?
Plus jeune d'un an.
Est-ce qu'elle était aussi engagée que vous pouviez l'être?
Non, je pense que j'étais engagée pour deux. C'est une personnalité différente, mais non, je crois que ce que je recherchais, c'était vraiment une famille, pas une famille, parce que j'ai une famille très aimante, très belle, mais...
Une belle enfance.
Une très belle enfance.
Milieu familial exceptionnel.
Harmonieux, absolument. Mais peut-être une famille d'idées et de cœur, et c'est ce que j'ai trouvé dans Amnesty International, des like-minded people, des gens qui pensent un peu pareil et qui avaient à cœur le même sentiment de justice.
Quel était le regard que jetaient vos parents à cette époque sur l'adolescente qui est en recherche, qui s'engage? J'imagine que c'était un... Il devait en être fier, mais est-ce qu'il y avait un regard particulier sur vos manières de vous engager? Parce que vous dites que votre sœur avait quand même un tempérament différent, deux personnalités différentes. Comment vous voyez cela maintenant, quelques années plus tard?
Mais je dirais que j'ai eu une chance exceptionnelle d'avoir des parents extrêmement compréhensif et accompagnant. Donc, ils nous ont jamais lancé dans une voie. Ils nous ont toujours laissé libres de nos choix. Et ça, je pense que c'est une chance immense. Ils nous ont toujours encouragés dans ce qu'on pensait être notre voie. Et donc, ma sœur, avec sa voix à elle, moi avec la mienne, on a toujours été très, très supportés par nos deux parents.
Et ça, c'est important, c'est stimulant à la fois.
Oui, et c'est peut-être ce qui me donne envie de me battre pour la liberté de choix, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental.
Diriez-vous que votre passage à Amnesty International à cette époque-là aura tracé la voie de ce que vous deviendrez?
Absolument. Ah oui, c'est intéressant parce que je m'engage toujours auprès d'Amnesty International et des personnes qui, à l'époque, travaillaient là, sont encore là. Et donc, 20 ans plus tard, j'ai toujours autant de plaisir à les revoir. C'est des gens qui m'ont beaucoup apporté et qui m'ont prédestiné, je dirais, vers ce que je suis devenue.
Et ça vous a amené à voyager. Vous allez vivre plus tard dans un kibboutz,
oui.
N'est-ce pas? Alors, avant d'en parler, on va terminer ce premier bloc avec une belle voix israélienne. C'est celle de Yasmine Levy. J'ai choisi pour vous Adio Querida. C'est une belle voix qui va peut-être vous tremper dans cette période assez intense quand même que vous avez vécue, n'est-ce pas?
Absolument.
Adio, adio querida, no quiero la vida. Me la amargaste tú. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida. Me la amargaste tú. Tu madre cuando te parió y te quitó el mundo. Corazón ella no te dio para amar segundo. Corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós querida. No quiero la vida. Me la amargaste.
mancherò la vita per amargare questo. A buscate otro amor, a fare otras puertas, a sperar otro ardor, que para mí sos muerta. A sperar otro ardor, que para mí sos muerta.
Amargates.